Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Virginie. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. Je t'ai invité car tu as lancé ta start-up qui s'appelle Freepy. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ?
Alors déjà, merci de m'avoir invité surtout.
De rien.
Freepy, en fait, c'est un site internet qui a pour but de démocratiser les vêtements d'occasion et de vraiment rendre les gens accros à ce style de consommation. Donc ça passe à travers un annuaire qui est l'origine du projet et qui référence en fait toutes les friperies déjà sur Strasbourg et ensuite dans le reste de la France. Une marketplace où tu peux réserver des vêtements en ligne et aller les retirer directement dans la friperie concernée. Et enfin un blog pour donner des astuces et vraiment s'ouvrir à ce style de consommation.
Et comment t'es venue l'idée de monter ta start-up ?
Alors en fait, à la base, je suis une grande fan de friperie depuis que j'ai 14 ans, je dirais. Et j'ai pas mal voyagé, et à chaque fois que je voyageais, je me rendais compte que c'était extrêmement difficile de trouver une friperie qui me correspondait. Et comme j'étais dans des pays avec des codes que je connaissais pas, enfin voilà, je galérais à trouver les adresses. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas commencer avec un annuaire, déjà sur Strasbourg, pour aider mes amis. Donc à la base, c'était vraiment juste un site internet où je mettais mes bons plans sur Stras. Et par la suite, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de belles pièces qui me passaient entre les doigts parce que je savais pas qu'elles étaient dans les magasins et que j'aurais bien voulu les réserver si jamais j'avais su qu'elles étaient là. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de la marketplace, tout simplement. Donc c'est vraiment un problème, on va dire un problème client.
Oui, et en fait, ça répond aussi à un de tes problèmes à toi.
C'est ça, en fait. C'est mon problème avant tout. Enfin, il n'y a pas eu d'analyse de marché ou quoi, je ne me suis pas posé la question. C'était vraiment, j'ai ce problème et j'ai envie de le régler déjà pour moi-même.
Donc aujourd'hui, tu es arrivé à concevoir déjà un business model.
C'est ça. Alors en fait, le business model, du coup, c'est la marketplace où au moment de la réservation, du coup, le client verse 10% de la somme du vêtement. Et une fois dans le magasin, en fait, il verse les 90% restants directement au gérant, en sachant que les 10%, du coup, nous reviennent directement à Freepy.
D'accord. Tu as lancé ta start-up un start-up week-end, non ? Enfin, alors, le projet s'est monté là-bas ?
Ouais, exactement, en fait. J'ai eu l'idée avant. Donc, avant ça, j'avais déjà le WordPress avec l'annuaire en place, mais pas la marketplace. Et c'est au Start-up Weekend 2018, donc en novembre 2018, où on a vraiment commencé à développer la marketplace, où on est allé voir les premiers gérants de friperie. Et on peut dire que le projet s'est vraiment lancé là-bas.
Et en fait, c'est quoi ? C'est sur un week-end, t'es porteur de projet, t'en parles et tu crées une équipe ?
C'est ça, ouais. Donc, t'as 3 jours, t'arrives le vendredi soir. En tout cas, je suis arrivée stressée comme tout dans mon cas. T'as 1 minute pour pitcher ton idée. Et là, les personnes ensuite votent pour ton projet, rejoignent ton équipe. Et c'est parti pour 3 jours jusqu'au dimanche soir où tu te donnes à fond.
Et là, t'as développé le logo, c'est ça ?
Ouais, exactement. Je suis tombée sur 2 graphistes super qui ont tout de suite compris ce que je voulais, qui ont fait un logo de fou que j'utilise encore, en fait. La charte graphique qu'elles m'ont fait, je l'utilise toujours encore. Et en l'occurrence, j'utilise encore souvent l'étude de marché qui a été faite pendant ce week-end aussi.
Ça a été bénéfique quand même au lancement.
À fond. En fait, ça a été bénéfique, mais pas que pour la matière qui a été produite, c'est-à-dire le graphisme et tout. Ça a aussi été bénéfique d'un point de vue mental. C'est-à-dire que quand je suis sortie du Startup Weekend, je savais que Freepy, c'était ce que je voulais faire.
Ouais,
je
ça savais. A été révélation.
Ouais, je savais que je voulais bosser dessus, qu'après mes études, je lancerais Freepy et puis je n'irais pas chercher à me salarier quelque part et que je voulais absolument tenter ma chance.
Et tu n'as pas eu peur de te lancer ? Enfin, tu m'as dit que tu étais stressée avant le Startup Weekend. Donc je pense que tu as eu quand même peur. C'était quoi comme stress ?
Alors le stress du Startup Weekend, c'était surtout que l'idée ne plaise pas.
Ouais.
Parce que la friperie, c'est assez... Voilà, il y a des personnes qui aiment, il y a des personnes qui détestent. Ça se démocratise tout doucement, mais c'est un peu qui tout double. Donc voilà, j'avais vraiment aucune idée si les gens allaient accrocher ou pas. Mais, et aussi le fait de parler devant beaucoup de personnes.
Ouais.
Donc voilà, je me considère pas ultra charismatique, je suis pas ultra à l'aise quand il s'agit de parler devant des personnes.
L'entraînement.
Voilà, c'est venu en fait à force de pitcher le projet, mais là c'était mon tout premier pitch.
Et tu l'as fait toi-même comme ça, le pitch, enfin, sur, je sais pas, la table de la cuisine, et tu t'es dit, bon, je vais essayer de parler de ça, ou t'as été déjà entourée en amont ?
Alors, j'ai eu la chance d'être entourée, en fait, par Jules, du coup, que t'as
déjà eu. La Schlukmap, oui.
Ouais, Jules de Schlukmap, du coup, qui m'a aidée à faire un pitch, qui a bien montré comment on faisait
bon
un
mentor.
Pitch. Ouais, un super bon mentor, franchement, j'ai eu une chance de fou, c'est lui qui m'a motivée, qui me disait, vas-y, tente ta chance, fais ton WordPress, fais ton annuaire, et ensuite regarde ce que ça donne. Et du coup, qui m'a appris à faire un pitch qui s'en sort bien à un Startup Weekend.
Donc, vu qu'il a l'habitude, vu qu'il en organise, il sait un peu les codes.
Ouais.
Je pense qu'il t'a largement guidé.
C'est ça, ouais.
Et ton projet, il était bon, donc ça match.
Et bah, exactement. Après, je pense que si j'avais pas eu ses conseils, je j'aurais peut-être pas passé la première étape du Startup Weekend. Donc, je lui en suis reconnaissante pour très très longtemps, je pense.
Parce qu'un Startup Weekend, c'est pas l'idée où il y a plusieurs personnes et pas tout le monde est choisi comme.
C'est ça. Bah là, dans le cas, en 2018, je crois qu'il y a une trentaine de projets qui ont pitché le vendredi. Et une quinzaine qui ont été retenus du coup pour faire le reste du week-end.
C'est bien.
Ouais.
Ça fait déjà plaisir à l'ego en se disant « ça va, mon projet il est pas mal, il y a des gens qui accrochent ».
Ouais, non mais carrément pour moi le plus dur était passé en fait.
Et sinon, créer Freepi, ça va, t'as pas peur? Enfin, avant t'en avais peur avant Startup Weekend? Je me dis, après Startup Weekend, t'étais plutôt confiante et tu savais que tu voulais faire ça?
Alors en fait, avant le Startup Weekend, Freepi pour moi c'était pas une façon de vivre. Enfin, je l'envisageais pas comme un futur métier. Pour moi, Freepi, c'était juste une occasion d'avoir un bon CV pour rentrer à l'IFM,
oui.
Donc l'Institut français de la mode.
Ah oui.
Donc voilà, je voulais un dossier vraiment qui se démarque et je me disais, bah, lancer mon propre projet dans les vêtements, il n'y a pas mieux. Et du coup, ça ne m'a jamais trop fait stresser dans le sens où il n'y avait pas d'enjeu.
Oui.
Il n'y avait vraiment pas d'enjeu et puis bon, bah, au pire, je ne rentrais pas dans l'école, quoi. Enfin voilà. Et bah, je me répète, mais ouais, c'est le Startup Weekend, en fait, c'est là où je me suis rendu compte que bah, j'en avais rien à faire de l'IFM.
T'es pas allée alors?
Non, j'ai pas postulé, rien. Rien du tout, et j'étais là, bah non, c'est ce projet qui m'intéresse. Ce que j'aime en fait, c'est pas tant la mode, c'est les vêtements.
Oui.
Et c'est les histoires derrière les vêtements. Donc pour moi, c'était évident que je devais continuer Freepi, donc j'ai eu aucun moment d'hésitation. Je savais que c'était vraiment ce que je voulais faire et je me sentais surtout épanouie dans ce que je faisais.
Donc t'as pas eu peur, t'as pas eu de croyances limitantes en disant ouais, je suis pas assez bonne dans ci, ça pour me lancer
Ça arrive, en fait, je suis pas du tout dans le numérique à la base.
Oui.
Alors que mon projet est totalement numérique, enfin, c'est un site internet. Moi, j'ai une formation en finance, autant dire que le numérique, on n'apprend pas grand chose là-dessus, quoi. Donc, effectivement, bah, j'étais persuadée, je sais pas développer.
Après, t'as fait un WordPress toi-même?
Avec l'aide de Jules.
Ouais, ouais, non, mais c'est compliqué, sinon tu prends des mois et des mois, mais en fait, c'est assez accessible après le WordPress. Quand on a fait un, même en co-créant, c'est facile après.
C'est ça, en fait, je me suis vraiment. J'ai utilisé à fond tous les outils qu'on peut trouver sur internet pour les personnes qui ne savent pas développer, pour un petit peu combler ma lacune. Mais ouais, ça a été le seul truc qui m'a un peu limité, en fait, c'est le manque de compétences là-dedans. Et puis, après, il y a aussi des questions de confiance en soi. Je déborde pas de confiance en moi.
C'est ça
la
croyance limitante. Enfin, ouais. Chacun a ses propres.
Donc voilà, je savais que c'était un point amélioré. Et puis, en l'occurrence, plus le projet se construisait, plus je développais ma confiance en moi. Donc, ça allait bien ensemble.
Donc ça fait un an et demi que t'es dessus.
Novembre 2018 à peu près.
Ouais. Il s'est passé quoi sur un an et demi? Enfin moi j'aimerais bien savoir en quelques mots parce que sinon ça me fait mois par mois. Non mais voilà des étapes clés que tu te rappelles.
Alors ça me fait bizarre de dire un an et demi parce que ça me paraît super rapide.
Ouais.
J'ai l'impression que c'était quelques mois et en même temps il s'est passé tellement de choses. Ce qui s'est passé après le Startup Weekend, en fait, c'est que j'ai obtenu du coup le prix de Semia. Donc j'ai eu un premier rendez-vous avec Semia et c'était aussi la période où je terminais mes études.
Oui.
Donc j'ai commencé Freepi en parallèle de ma dernière année de master. Et grâce à ce premier rendez-vous avec Semia, en fait, j'ai fait mon stage de fin d'études chez eux. Donc là, ça a été une immersion totale dans le monde des startups et aussi une chance de fou de pouvoir continuer à travailler sur Freepi et d'être valorisée pour mon travail sur Freepi, même pour mon stage de fin d'études. Donc voilà, j'ai appris énormément sur l'écosystème. À côté de ça, j'ai fait la starter class de Semia. Je suis rentrée en incubation chez eux.
Ça, c'est bien.
En juin 2019. Et voilà, j'ai aussi intégré le programme Femmes Entrepreneuses de Orange, aussi grâce au Startup Weekend. Donc voilà, au final...
Le Startup Weekend, quoi, a été complètement bénéfique.
Ouais, ouais, c'est un événement qui a laissé plein de choses en découler et qui m'a été méga bénéfique pendant plus d'un an et qui continue encore aujourd'hui.
Et après, t'as amélioré ton site. Enfin là, je sais que t'es en train de l'améliorer. Il y a quelques mois, t'as...
C'est ça, alors en fait... Alors ouais, suite à ça, en fait, j'ai rencontré Thibaut, donc mon associé qui est développeur. En mai, on a décidé de... Donc mai 2019, on a décidé de s'associer ensemble. Donc le temps de sortir la marketplace, on va dire la marketplace était développée pour septembre 2019, ce qui match aussi avec le moment où on a eu notre premier partenaire, donc en tant que Freepi, qui a déjà 3 magasins, donc ça a été un gros bond.
C'est quel
C'est Vétis.
Vétis.
Donc c'est eux qui ont la plupart des bornes pour collecter des vêtements en fait sur Strasbourg.
D'accord.
Voilà, ils ont 3 magasins, Niederhausbergen, Schiltigheim et Esplanade. qui me supportent aussi énormément, qui croient à fond au projet et qui vraiment sont dans l'entraide et qui comment dire, ouais, qui m'en veulent pas parce que je débute, quoi. On est vraiment dans la co-création.
Après, il y a, je pense, il y a d'autres friperies qui seront d'accord. Enfin, même il y a des friperies qui se lancent. C'est peut-être l'occasion aussi, genre OK Boomers, des choses. Boomer, pardon, trucs comme ça.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, là, on a la chance d'être dans une ville où il y a beaucoup de friperies. Mmh. Et il y en a beaucoup qui ouvrent aussi. Si on regarde, en un an, il y a 3 friperies qui ont ouvert. C'est énorme. Donc, effectivement, c'est tout autant d'opportunités. Et là, justement, je suis dans la phase où maintenant que le site internet est tout beau, tout propre. Bah, il faut faire du commercial, il faut aller voir les magasins et y aller juste avec un grand sourire et puis oser leur poser la question si Freepi peut les intéresser. Après, tout a été construit dans l'intérêt des gérants des friperies, en fait. Donc autant ça vient d'un besoin client qui était le mien, mais c'est aussi construit dans un besoin, dans l'intérêt vraiment des gérants à fond pour qu'ils gagnent du temps. Donc il faut juste en fait réussir à tourner ça de telle façon à leur prouver qu'on leur veut que du bien.
Ça me fait penser un peu à Click and Collect. Je sais pas si tu connais.
Bah en fait, c'est tout le principe de la plateforme. On fait que du Click and Collect.
C'est ça, quoi.
On fait pas de livraison, donc on veut vraiment attirer les clients dans le magasin pour qu'ils sentent la vibe de chaque friperie, en fait. Une friperie, c'est pas comme un magasin de fast fashion, en fait, où ils se ressemblent tous avec des néons blancs. Quand on rentre dans une friperie, c'est comme si on rentrait un petit peu chez le gérant. On sent son ambiance, qu'il aime dans la vie. Et ça vaut tellement la peine d'être vu, je trouve ça trop dommage de faire de la livraison avec les friperies parce que bah, le contexte fait partie de l'expérience d'achat. Donc c'est pour ça qu'on veut vraiment amener les personnes dans la boutique pour qu'ils voient des vêtements qui sont pas sur Freepie, pour qu'ils discutent tout simplement avec le gérant, quoi.
Ils ont tous une histoire en plus, les gérants, quand on parle avec eux, faut pas hésiter à leur demander. Moi j'aime bien savoir comment ça s'est fait, etc. Je trouve ça tellement différent en fait qu'un commerce traditionnel, c'est pour ça que ils ont tous leur histoire, genre le cabaret du chat c'est sa collection, Elchine, il y en a qui rapportent, etc. Je sais que Frock'n'Roll c'est en Allemagne qu'il a son stock, enfin bref.
Ça dépend en fait vraiment de leur style personnel.
Ouais,
c'est un peu c'est leur caverne d'Alibaba perso. Et c'est pour ça que chaque personne peut trouver un magasin qui lui correspond à fond. Parce que c'est des magasins avec des identités ultra fortes.
Moi, j'adore ça, donc tu prêches une convaincue. est-ce que tu as eu des moments difficiles, des moments où des échecs, des envies d'abandonner, où tu t'es dit, je ne vais pas continuer?
Alors, ça m'est arrivé, évidemment. Je pense que c'est arrivé à tous les entrepreneurs. Ça fait partie du job, j'ai envie de dire. c'est à partir de septembre, en fait, je me suis quand même lancée un petit peu à corps perdu dedans. C'est-à-dire que j'avais terminé du coup mon stage, j'avais terminé mes études, et pour moi c'était vraiment le vrai moment d'y aller, quoi. Et le problème, c'est que du côté de mes parents, c'était assez compliqué à comprendre. Alors il faut savoir que mes deux parents sont entrepreneurs.
Ok, ça fait très paradoxal. Je me suis dit, c'est peut-être pas des entrepreneurs, ils connaissent pas le métier, ça leur fait peur, c'est instable.
En fait, et pourtant, mes deux parents sont entrepreneurs, mon père m'a soutenue à fond, à fond, à fond. Il était tellement fier. Et ma mère était plus sur ses gardes, je pense pour son histoire personnelle, mais elle voyait que avec le diplôme que j'avais, j'aurais pu vraiment faire beaucoup d'argent. Et aujourd'hui encore, ça lui arrive de me demander, mais pourquoi tu vas pas travailler en Suisse avec tes études et tout. Donc voilà, en fait, je pense qu'elle, du coup, a vécu sa passion à travers l'entrepreneuriat, et elle a vu les hauts et les bas, et elle a envie de m'en protéger, à mon avis. Mais bon, là, c'est à moi de leur montrer, du coup, que j'ai envie de tout donner. Donc effectivement, c'est difficile quand on voit que ses propres parents ont des doutes face à son projet, ça a tendance à nous découler dessus. Puis après, il y a aussi les hauts et les bas personnels. L'entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose de très spécifique, où quand il y a un problème personnel, ça découle tout de suite sur son travail, parce que ça tient qu'à nous de nous lever le matin, ça tient qu'à nous d'organiser notre emploi du temps. Donc si on n'a pas envie,
on reste au lit.
C'est ça.
Et ça, c'est dur, c'est de lutter contre ça et se dire non, il me faut une routine, je peux pas, enfin moi je sais que je peux pas me lever après 8 heures. Genre pour moi, c'est trop tard, j'ai l'impression d'être levée à midi et fait à midi. Mais ouais, si on n'a pas un cadre comme quelqu'un qui est salarié, tout peut partir rapidement en fumée, on peut laisser passer un jour, en pensant que c'est une semaine qu'on a gâchée, enfin...
C'est ça, ouais, et puis surtout la culpabilité qu'on ressent par rapport au fait de gâcher du temps. Je sais que bah, là, en l'occurrence, mon plus gros down que j'ai vu en termes entrepreneurial, c'était ces dernières semaines, en fait.
Mmh.
Où j'ai bien passé 3 semaines où j'étais incapable de travailler. J'avais tellement peur d'échouer, de pas aller dans le sens où je voulais, qu'en fait, juste le fait de travailler, je bloquais. Enfin, je balisais trop et du coup, j'étais inefficace toute la journée.
Bon, après, si c'est des semaines et après, ça te permet d'être meilleur, de rebondir, de te poser les bonnes questions, en fait, c'est pas un échec. Peut-être que t'avais besoin de te recentrer, en fait. C'est pas... Ça doit arriver quand ça arrivera. Et je pense que Jules, il le dit très bien. Il disait quoi? Que si les choses n'ont pas été faites à l'instant, elles seront faites plus tard et c'est comme ça que ça doit être.
C'est ça. Mais au final, je sens que donc les dernières semaines où j'ai eu ce coup de mou, elles m'ont été super bénéfiques. Parce qu'à partir du moment où j'ai compris mon blocage, où j'ai compris que voilà, si j'ai peur de travailler, c'est parce que j'ai peur de me casser la gueule, tout simplement.
Mais la peur de l'échec.
Voilà. Bah, le fait de comprendre ça, ça m'a tout débloqué. Et là, aujourd'hui, j'ai une énergie que j'avais pas il y a plusieurs mois, où pourtant j'arrivais à me lever tous les matins et à bosser de façon super régulière. Donc, au final, je pense pas que ce soit vraiment un échec personnel de pas réussir à travailler tout le temps, vu tout ce que j'ai réussi à en retirer par la suite.
C'est pas du tout un échec, en fait. On a envie... C'est français, en fait. Ça reste là, voilà. Enfin, j'aime bien en parler, mais un moment de chômage dans un CV, c'est un échec. Alors, pas du tout, en fait. C'est un moment de... On se pose des questions. On se dit, ouais, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais aller vers ci, ça, ça? Et un chômage peut durer longtemps parce que déjà, tu peux passer une mauvaise période de dépression. Donc, tu procrastines, t'as peur, t'as perdu ta confiance, etc. Comme toi, un moment où quand tu travailles à ton compte et que t'as un moment où tu travailles... De blanc, ben c'est pareil, tu te remets en question, tu sais pas ce que tu veux faire, t'as peur, et à un moment, tout se réaligne et tu recommences, quoi. Donc, c'est, à mes yeux, c'est pas grave, c'est nous qui portons trop à cœur notre projet, on a peur de perdre du temps et on se dit, mais non, mais si j'attends encore, ça va pas se lancer. Après, je parlais avec Adrien hier, qui me disait, moi, quand il y a un truc qui va pas, c'est obligé que ça dure une heure max parce que j'ai trop des deadlines. Donc lui, il arrive à lâcher prise, mais je pense que ça se travaille, parce que moi je suis pas encore là-dedans
non plus. Ouais, moi non plus, alors là, quand quelque chose va pas en général, je fais un peu le contraire en fait pour le coup, je me dis je préfère tout ralentir, mais par contre prendre le temps d'analyser qu'est-ce qui va pas.
Bah ça c'est personnel à chacun.
Et vraiment d'aller chercher au plus profond la cause et de vraiment démêler ce nœud quoi. Et c'est pour ça que je m'en sens à chaque fois plus grande et plus forte après.
Donc c'est comme ça que tu arrives à surmonter les échecs, en fait, en te centrant sur toi-même.
Ouais, ouais, c'est ça.
Et tu fais quoi, du développement personnel ou de un peu aspect psychologique? Enfin, c'est dur de... Tout le monde n'arrive pas à se poser les bonnes questions sur soi-même et de dire, ok, pourquoi ça va pas, etc. Enfin, c'est un travail assez...
Ben, personnellement, je fais énormément de méditation.
Ouais.
Y a des périodes où ça peut m'arriver d'en faire matin et soir. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis bah, franchement, je vais pas m'en cacher, ça m'est arrivé d'aller voir même des psychologues pour essayer de comprendre ce qui se passait.
Bah, c'est important, enfin, c'est assez normal. Moi, quand j'étais à Paris, les psychologues, les coachs de vie, c'était vraiment démocratisé. Et à Strasbourg, pas du tout.
Ouais, non, mais là, c'est... Bah voilà, en l'occurrence, le blocage que j'ai eu ces dernières semaines, bah, c'était aussi grâce à un psychologue, j'en suis sortie. Et puis j'ai passé une heure assise dans une salle avec lui à parler quasiment que de frippi. Donc c'était drôle, c'était quasiment un psychologue professionnel dans le fond, mais ça m'a tellement aidé, ça m'a tellement débloqué d'avoir quelqu'un d'autre qui permet de mettre le doigt sur certaines choses qu'on n'a pas vues, de changer d'angle. Après, je parle aussi énormément autour de moi, je suis quelqu'un qui est très interdépendante avec les personnes, donc quand je vais pas bien, j'ai besoin d'en parler.
Il faut. Et ceux qui n'arrivent pas à en parler, on leur conseille aussi d'écrire.
Voilà, écrire beaucoup, ça m'arrive aussi, et puis voilà, donc... Là, j'en profite pour m'excuser envers ma coloc qui a dû m'entendre parler des problèmes qui n'allaient pas absolument beaucoup trop souvent.
Mais maintenant, tu t'en parles plus. C'est bon. Enfin, ça va mieux, je veux dire.
Ah oui, non, mais ça va mieux, mais je continue de parler beaucoup trop souvent quand même.
Non, mais ça va. Une coloc qui parle pas, c'est horrible. Je voudrais savoir justement par rapport à ton associé Thibaut. Il y a plein d'histoires d'associés où ça se passe très bien, comme Ben et Joe. Pour eux, c'était genre un mariage, enfin un mariage entre guillemets, hein, voilà, quasiment d'instinct. Ils ne sont même pas posés de questions, ils voulaient bosser ensemble, ils ont bossé ensemble. Une autre, Fanny, c'était plus compliqué. Moi, j'aimerais savoir si voilà, t'as posé un cadre ou pas. Tu t'es dit, ok, on a le feeling, testons et on verra. Je sais pas, enfin, comment dire, comment ça s'est fait?
Ça a été super naturel, je dirais. Mm-hmm. En fait, quasiment tout le mois de mai, on se voyait tous les samedis, toute la journée.
D'accord.
Et on parlait du projet.
Mm-hmm.
On parlait surtout des valeurs du projet, énormément. Donc, c'était assez drôle parce que Thibaut, à la base, était jamais allé en friperie.
Ah ouais?
Ouais, ouais. Et pourtant, il avait vraiment accroché sur les valeurs.
Mm-hmm.
Sur ce que je dégageais, sur ce que je kiffais, en fait, dans les friperies. Et du coup, on parlait de comment on pouvait être complémentaires l'un avec l'autre. Puis il y a surtout une soirée où on s'est dit, ok, c'est parti.
On y va.
Ça devait être genre le dernier samedi du mois de mai, justement. On s'est dit, bah vas-y, on s'associe, c'est parti, et on regarde ce que ça peut donner.
Et pour l'instant, ça va, ça passe bien.
Nickel. On ouais. est ultra complémentaires, on s'entend vraiment super bien.
Vous soutenez, ça va, il est... enfin, quand t'as eu ta période de vide, mais je crois que c'est quelqu'un qui se prend pas trop la tête et qui est pas trop prise de tête. Enfin, ça se voit que... C'est bonne entente avec lui.
C'est ça. En fait, j'arrive même pas à voir un sujet sur lequel on pourrait se prendre la tête. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Pour le projet, on retombe toujours sur les mêmes idées, mmh. sur les mêmes accords. S'il y a aucun sujet de conflit, quoi.
Ça, c'est pas mal. C'est bien parce que moi, j'ai l'impression que c'est... Enfin, quand on me vend l'idée d'être associé, j'ai l'impression que c'est compliqué.
Non, mais après, ça demande beaucoup de... Je pense de maturité des deux côtés.
Mmh.
C'est comme un couple, en fait.
Mais c'est ça en fait.
En fait, on compare toujours ça à un mariage et ouais. je confirme, c'est vraiment comme un mariage.
Moi, j'appelle ça un mariage, c'est pour ça.
C'est vraiment la même chose. Enfin, il faut être assez mature pour parler de ce qui va pas, pour comprendre le point de vue de l'autre. Enfin, c'est. Et à partir du moment où les deux personnes ont la bonne façon de communiquer, il n'y a pas de conflit.
C'est ça, il faut juste. Voilà, pour moi, c'est poser un peu un cadre, quoi. Ou être conscient. Parce qu'il y a des enjeux tellement financiers derrière, enfin.
C'est ça. C'est alors nous, je pense à bien simplifier la chose, c'est qu'au début, c'était vraiment genre, on faisait ça pour kiffer un peu,
mm-hmm.
et il n'y a pas eu tant d'enjeux financiers.
Ouais.
Donc voilà, je pense que les plus gros enjeux financiers, ils sont pour moi pour l'instant, dans le sens où je ne touche pas de chômage, je ne touche pas de RSA.
Mm.
Donc c'est un peu compliqué. Thibaut, lui, il est encore couvert par son chômage pour l'instant. Donc voilà, peut-être que sur la fin du chômage, on risque d'avoir
ouais.
certains enjeux financiers, quoi. Mais j'espère qu'on va rentrer à cette chiffre d'affaires d'ici là pour ne pas avoir ce genre de problème.
Moi, j'aimerais bien parler maintenant des femmes entrepreneurs parce qu'il y en a... Là, je suis contente parce que j'arrive à faire des podcasts avec beaucoup de femmes entrepreneurs. C'est peut-être parce que je suis une femme et ça résonne plus facilement en moi, mais au fond, il n'y en a pas beaucoup. C'est un pourcentage faible. T'aimerais dire quoi aux femmes qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat et qui font peut-être pas le pas parce qu'elles se disent « c'est un métier d'homme » ou « c'est dur » ou « j'ai des enfants ». Bon, dans ton cas, non, mais...
Je dirais juste foncer sans réfléchir. C'est dur,
oui.
surtout pour une femme, parce qu'on nous a souvent appris à beaucoup réfléchir aux conséquences de nos actes, etc. C'est vrai qu'il y a des gros problèmes de discrimination. La femme, elle est quand même amenée à être moins sur la place publique qu'un homme,
mm-hmm.
à rester plus dans le foyer, par exemple. Mais il y a un moment, en fait, où si on a une idée, si on a une envie, je suis persuadée qu'en fait, chaque personne a sa légende personnelle, et que si on a une légende personnelle à suivre, il faut y aller. Peu importe qu'on soit un homme, une femme, il faut juste pas réfléchir et se lancer. Et les problèmes, on apprendra à les affronter.
Et même, il y a beaucoup d'associations comme celle-là que tu me parlais, Femmes Entrepreneuses Orange.
Alors, ouais, dans le cas de... Donc moi, je fais partie du coup du programme Femmes Entrepreneuses. Donc j'ai fait la saison 1 et là, je suis repartie pour la saison 2.
Mm-hmm.
Donc c'est organisé par Orange. Et alors, je ne saurais pas dire combien on est sur toute la France. On a une centaine de femmes entrepreneuses, mm-hmm. du coup, sélectionnées par Orange, il me semble. Et on est soutenues, en fait, par des personnes qui travaillent directement chez Orange. Donc c'est super, en l'occurrence on a pas mal de réunions aussi où on peut parler entre nous. On a une conversation par exemple par message.
Ouais, WhatsApp je pense.
Ouais ouais, sur une conversation et message, un truc dans le genre quoi. Donc ça fait du bien d'être soutenu, d'avoir quelqu'un à qui parler de ses problèmes et tout. Parce que bah, malheureusement il restera toujours des petits problèmes de discrimination par rapport à ça. Être une femme ça peut arriver d'être moins pris au sérieux, c'est triste à dire. Et surtout, bah, voilà, ça nous prend deux fois plus de force d'aller, de pitcher, d'affirmer ses idées. Donc ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui nous dit « vas-y, affirme-toi et réfléchis pas ».
Même ta chargée d'affaires, c'est une femme chez Semia, donc ça doit aussi aider, et une écoute différente. Mais après, il y a beaucoup d'hommes, je trouve, qui commencent à aimer voir des femmes se lancer. Ça, c'est une mentalité aussi qu'il faut changer de tous les côtés et pas que... pas que chez les femmes, en fait, les hommes, il faut aussi qu'ils nous soutiennent. C'est ça, le féminisme, un peu aussi.
C'est ça. En fait, ça va dans les deux sens. Ça va déjà des femmes qui doivent surtout pas hésiter à se lancer. Et aussi des hommes qui doivent pas poser de barrières pour que les femmes se lancent. Ça m'est déjà arrivé, en fait, d'aller parler... je me souviens d'une conférence, en fait, sur les levées de fonds, où j'étais allée parler, du coup, au speaker à la fin, en lui disant, mais je suis assez étonnée que vous n'ayez pas parlé de la double discrimination envers les femmes dans les levées de fonds. Donc, on a vraiment une double discrimination, dans le sens où les femmes lèvent moins de fonds que les hommes.
Ah ouais,
en plus de ça, le montant levé par les femmes est plus faible que le montant levé par les hommes. Et... en fait, je me suis retrouvée face à un homme qui avait l'air assez fermé d'esprit et qui me disait « Mais pour moi, cette discrimination, elle n'existe pas. »
Pourtant, c'est prouvé.
Et bah, c'est prouvé par les chiffres. Et il me disait « Non, non, pour moi, c'est de la faute des femmes. C'est parce qu'on n'a pas assez de femmes qui osent faire une levée de fonds. » Donc voilà, on en vient à cette idée. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Et c'est autant aux hommes qu'aux femmes de faire un effort là-dessus.
D'être une équipe, quoi. Ce serait pas mal. Un mot pour définir à quel type d'entrepreneur tu es ?
Spontané.
Spontané.
Ouais, je pense que c'est vraiment spontané qui me va le mieux. Je peux avoir une idée du jour au lendemain et vraiment me mettre à fond dessus, ou à l'inverse, comme je disais, bah, si ça va pas, je vais spontanément prendre quelques jours off pour réfléchir à qu'est-ce qui va pas. Enfin, j'aime pas trop tout planifier, j'aime bien me laisser surprendre. Donc ouais, spontané, je pense que c'est...
T'aimes pas trop les cadres ? Tu te mets pas de cadre ?
Ah, je suis nulle avec les cadres.
Non mais t'as vraiment... Non, mais...
Je suis vraiment nulle, en fait, si je me mets un cadre, tout simplement, j'arrive pas à le respecter.
Ouais,
Et j'ai appris à l'accepter. Je sais que c'est pas forcément la meilleure des choses, mais...
En fait, ça dépend des gens là, qui aiment mettre des cadres pour m'avancer, d'autres ils en veulent pas, parce qu'ils sont trop étriqués dedans et ça leur fait de la peine s'ils arrivent pas à le réussir, enfin...
C'est ça, en fait, j'ai besoin d'une liberté vraiment inconditionnelle, et à partir du moment où je suis pas libre, je suis pas productive.
Oh non. Prends pas de cadre. moi, je veux savoir quel était ton plus grand défaut.
Oh boy. Je suis... Très, très, très sensible.
Ouais. Hyper sensible.
Hyper sensible, ouais. Carrément hyper sensible. Alors, c'est drôle parce que ça fait un peu écho, du coup, avec le fait d'être une femme entrepreneur. Mmh. On a un peu l'idée que pour être femme entrepreneur, il faut être femme forte.
Qu'il faut, c'est une image, ça, qu'on, voilà. donne à, qu'on voit à la télé, etc., dans les films.
On a vraiment l'image de la businesswoman qui arrive, qui est là pour...
tout casser. Beyoncé.
Ouais, voilà, c'est ça. moi, j'ai une expression, enfin, c'est un peu vulgaire, mais je dis toujours, voilà, j'arrive pour casser des culs.
Toi ?
Ouais, c'est mon expression, et le matin, vraiment, ça m'arrive de me réveiller et de me dire « aujourd'hui, je vais casser des culs ».
Ouais.
Et voilà, c'est vraiment l'image qu'on a envie d'avoir d'une femme entrepreneuse, d'une start-upeuse et tout. Et pourtant, bah, j'ai cette hypersensibilité qui fait que bah, c'est pas toujours facile, que parfois, quand je veux me prendre une remarque, bah, ça va avoir une conséquence plus grande que ce que j'ose montrer. Donc, il y a certaines personnes qui m'ont déjà dit de m'endurcir.
Ouais, mais c'est facile comme phrase, hein. C'est comme tout, hein. Alors, c'est des phrases un peu bateau que les gens ils sortent et tu dis oui, mais j'aimerais en fait. Mais,
c'est ça, ouais.
C'est plus compliqué.
Parce que pour le coup, ça peut vraiment être handicapant. Ouais. Je pense par exemple à la phase commerciale en ce moment où il faut vraiment aller voir des gérants, il faut décrocher son téléphone, il faut avoir confiance dans son produit, quoi. Et avec une sensibilité comme la mienne, bah, c'est pas forcément facile.
Il faut pas le prendre pour toi, quoi.
C'est ça, ouais.
Et c'est dur parce que c'est ton bébé.
Mais pourtant, c'est quelque chose qui me tient à cœur de rester aussi sensible, parce que je pense que si j'avais pas cette sensibilité, j'aurais pas réussi à autant cerner les besoins des gérants, à autant cerner les besoins des clients, à autant cerner pourquoi j'aime la friperie et pourquoi j'ai envie de faire ce projet. Donc voilà, c'est mon plus gros défaut, je le sais, mais comme j'en ai conscience, ça devient aussi une grande qualité, je pense.
Qu'est-ce que tu détestes faire dans ta boîte pour le moment ? L'administratif, on la compte. Hein.
Alors, clairement...
Ne ça te reste... sabre pas.
C'est le commercial.
Ouais.
Clairement. Et bah, justement, lié à ce que je disais avant...
Mais tu sais que tu peux payer... Enfin, tu peux payer des commerciaux, des agents co, hein, aussi. Hein, ça existe, tu vois.
Mais en fait, ce qui me fait peur, c'est que... Même si j'aime pas faire ça, je sais que... Souvent, on me dit, quand je parle de Freepy, j'ai vraiment ces étoiles dans les yeux, ce petit truc qui me fait vibrer en fait. Et j'ai peur que du coup, si je le délègue trop, il y ait plus ce sentiment qu'on sente pas.
Mais après, si tu vas parcourir la France, délègue, tu vois.
Mais ah oui, non, mais clairement. Hein. Non. Clairement, il y a un moment où je vais devoir déléguer. Hein. Mais là, pour l'instant, je sais que c'est à moi de faire le commercial. Mmh. C'est à moi de faire la partie la plus chiante à mes yeux. Mais. Comment dire ? En fait, c'est difficile parce que j'adore aller voir les gérants des friperies. J'adore parler de leurs vêtements, voir leur passion aussi. Puis en général, du coup, c'est une passion réciproque parce que moi, je suis passionnée par Frippi, eux, ils sont passionnés par leurs fringues. Enfin, vraiment, c'est quelque chose, c'est ultra nourrissant. Et je me sens toujours plus grande quand je sors d'un magasin comme ça et tout. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de... J'ai l'impression d'un peu les forcer, tu vois, en termes commercial.
Après, c'est un métier, hein. C'est vrai. Hein. C'est, ouais, c'est vraiment un métier. Et limite, faudrait te faire coacher par quelqu'un dans le commercial, tu vois.
Ouais, non, mais
quelqu'un qui te donne les clés pour une approche pas, pas oppressante vis-à-vis des gens. Moi, j'étais dans... J'étais commerçante, j'étais pas commerciale. Mais voilà, il y a des méthodes non agressives. Voilà, idéalement, trouver peut-être quelqu'un qui soit capable de donner des tips, dire, voilà, même créer un peu une ligne conductrice, un fil rouge pour quand t'arrives, ça fasse bien calibré, mais pas non plus vendeur, genre porte ouverte, etc. Enfin, parce qu'il y en a, ils utilisent toutes les méthodes un peu archaïques, genre le pied dans la porte et tout, mais c'est des trucs, c'est n'importe quoi. Genre très vieux vendeur d'auto, tu vois. Et ouais, limite, si t'aimes pas ça, fais-toi, essaie de voir pour te faire coacher par des gens, parce que c'est hyper compliqué. Moi, je pense que c'est hyper compliqué.
Ouais, c'est dur. Bah, surtout que là, mon rêve ultime, ce serait d'avoir une approche commerciale qui matche avec les valeurs de la boîte. Et la première valeur de la boîte, c'est l'honnêteté. Et du coup, je voudrais vraiment cette approche où bah, je vais voir les gérants. Je vais voir les gérants.
Ils sont pas gênants, les gérants.
Voilà, je vais voir les gérants sans être gênante. Et je suis honnête avec eux, quoi. Je leur dis ce qu'ils ont à gagner, je leur cache rien. Et j'ai pas envie de leur promettre vraiment des trucs de ouf. J'ai envie de leur promettre une approche honnête, qui soit libre. Enfin, voilà, je veux garder toutes les valeurs de bienveillance, de liberté de ma boîte, même dans le discours commercial. Et ça, c'est dur parce qu'en fait, dans le commercial, bah, bienveillance, honnêteté, liberté, c'est pas vraiment comme ça qu'on voit le commercial en général, quoi.
Mais moi, je me dis qu'il y a plein d'entreprises qui sont là-dedans. Et qui arrivent à faire un travail commercial avec leurs valeurs. En fait, je pense que c'est une mauvaise image qu'on a du commercial aussi, qu'on voit, voilà, le vendeur des tapis, ouais, le vendeur des fenêtres alors qu'elles sont pas bien, le gars qui te vend des aspis. Ouais, non, je pense que tu peux vraiment créer quelque chose qui te corresponde vraiment, en fait. Faut juste, en fait, le principal, c'est qu'ils signent aussi derrière.
Ouais.
Parce que si tu leur apportes quelque chose de bien, tu sais que c'est bien, tu sais que t'es pas là pour les entuber, ça marchera.
En fait, le produit a été de toute façon développé dans toutes ces valeurs, comme je disais, donc en fait, on ne peut pas les entuber, enfin, je veux dire.
Non, mais donc c'est ça, donc c'est du commercial. Voilà, tout le monde utilise le commercial, c'est juste toi, comment tu vends la chose. Si tu sais que c'est un bon produit avec des bonnes valeurs, tu le vends en produit bonne valeur. Et... Ouais, non, mais ça faut... C'est aussi un travail après.
Bah, c'est un travail de... Voilà, ça rejoint tout ce qui est la confiance en soi, la sensibilité.
Et même la peur de l'échec, la peur du refus aussi, je pense que ça arrête.
C'est ça, ouais. Non, mais du coup, enfin, clairement, le commercial, ça réunit tous mes défauts. Enfin,
Et Thibaut, il est pas bon au commercial ?
On va en parler.
Peut-être que... Mais ça, vous y allez ensemble, ou je sais pas. Enfin, faut que tu testes une fois et après, ça ira mieux. Est-ce que tu as une anecdote de la honte ? Un truc qui s'est passé, je sais pas, Startup Weekend ou peu importe.
Alors, faut savoir que je suis ultra maladroite, de nature. Ça fait partie de moi, en fait. Du coup, je cherche à oublier toutes les fois où je me suis tapé la honte. Enfin, j'ai pas de filtre, en fait. Naturellement, j'ai pas de filtre. Je suis assez à l'aise avec qui je suis, on va dire. Du coup, ça m'arrive très souvent de me taper la honte. Mais je dirais, il y a une fois, et c'est un truc qui m'a vraiment marqué, c'était pas pour Frippi, c'était pendant mon stage.
D'accord, Assemia.
Ouais, Assemia. Où du coup, donc c'était à Mulhouse, et puis j'étais missionnée de trouver un prestataire pour des paniers de légumes. D'accord. Sur le lieu où je travaillais. Et il se trouve que j'ai appelé ce prestataire le jour où je faisais mon déménagement, donc de Strasbourg à Mulhouse. Et j'avais l'après-midi libre pour faire mon déménagement. Donc j'arrive, je vais louer ma camionnette pour le déménagement. Et je commence à conduire avec la camionnette. Donc déjà, il faut savoir que c'était la première fois de ma vie que je conduisais avec une camionnette. Voilà, c'est... Voilà. Juste la veille, mon père a dû me rappeler que j'avais pas de vitre à l'intérieur.
Ah bah oui. Oui. Bah oui.
Et il se trouve que je commence à conduire avec la camionnette et elle commence à biper de partout, partout, partout. Genre la porte du hayon arrière totalement ouverte et tout. suis déjà genre, je comprends pas, je commence à paniquer de fou, je m'arrête sur le premier parking, je prends mon téléphone. Et du coup, je rappelle le dernier numéro,
oh non,
qui était le numéro de l'agence, donc où j'ai loué la camionnette. Et je prends le trousseau de clé en main avec la plaque d'immatriculation et le modèle de la voiture dessus, enfin de la camionnette. Et je dis, oui, bonjour, je viens de passer chez vous, en fait. Donc vous m'avez donné la camionnette telle et telle, et puis il y a un problème, la porte du haillon se ferme pas, je comprends pas, qu'est-ce que je dois faire et tout. Et le mec au téléphone me dit, attendez un instant, mais je comprends vraiment pas, en fait, ce véhicule, on l'a pas. Il vient pas de chez nous, ce véhicule. Donc là, je commence à baliser à mort, à me dire, mais attends, je suis dans une faille spatio-temporelle, là. Est-ce que j'ai pris un véhicule qui n'était pas à l'agence? Je comprends pas ce qui m'arrive, alors je panique d'autant plus. Le mec, il me confirme, il dit, non, on n'a pas de véhicule, on n'a pas de camionnette avec un haillon arrière. Je comprends pas, enfin, je suis vraiment désolée, mademoiselle. Et là, moment de génie, où je me dis, attendez, je suis bien à l'agence de location telle et telle. Non, nous, c'est les paniers de légumes bio.
Donc on loue pas des camionnettes.
Donc en fait, ne faites pas la même erreur que moi. Quand vous êtes persuadé que la dernière personne que vous avez appelée est celle que vous pensez, ce n'est pas le cas. Donc en fait, je me suis retrouvée à appeler le mec des paniers que j'avais appelé le matin pour mon taf. Je l'ai fait paniquer de fou. Je pense que j'ai dû lui filer toute ma panique. Et du coup, bah, je me suis sentie un peu conne. Après, tout s'est bien terminé, hein, finalement. On a quand même travaillé avec lui. Oui. On a signé avec lui,
ouais. Tu as dit que c'était toi... T'as esquivé, genre, non ? Ah bon ?
Je crois que j'ai arrêté de dire mon prénom quand je l'ai appelé par la suite.
Genre, bonjour, c'est bien.
Ouais. Bonjour, c'est le KM0, en fait. Donc voilà, non, je me suis sentie très conne. Après, il n'y a pas eu de mal.
Non, mais non.
Finalement, la porte du haillon s'est fermée. J'ai pu faire mon déménagement en toute tranquillité. Mais ah ouais, là je me suis sentie vraiment ça m'a valu un boulet d'or au taf, en fait. Une de mes responsables en fait s'est amusée du coup à prendre une feuille blanche et à mettre un coup de surligneur jaune dessus, et dès que je faisais une boulette comme ça, elle froissait la feuille et puis elle me la lançait dessus, elle me disait ouais, c'est le boulet d'or.
Pas mal
pour dire à quel point ça m'arrivait souvent d'être maladroite. Genre là, c'est une anecdote parmi tant d'autres, quoi.
Franchement, au moins t'as de quoi raconter pendant les soirées et on peut se marrer.
Ouais, non.
Ça, c'est bien.
Alors, autant je suis maladroite, mais ça se finit toujours bien. Toujours, toujours bien. Il suffit de garder le bon mindset et de se dire, il y a plus de solutions que de problèmes.
Mmh. Là, ça va. C'était chou. Enfin, tu l'as fait très stressé, mais...
Ouais, mais on a stressé tous les deux, en fait. C'est ça qui était horrible, quoi. Aucun des deux n'était à l'aise.
Alors, pour finir le podcast, parce que ça fait un petit temps qu'on parle... je finis toujours par la même question, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné ?
Waouh !
Ouais, il y en a plein, je pense.
Ouais, j'ai reçu beaucoup de conseils en un an qui m'ont permis de beaucoup évoluer. Je pense que un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné, c'est ma chargée d'affaires qui me l'a donné la première fois que je l'ai rencontrée, la toute première fois après le Startup Weekend. Et ça paraît très simple comme conseil, mais c'est... Fais comme si t'avais 30 ans. Parce que je suis arrivée toute timide à ce rendez-vous. Et je disais, mais je me sens pas légitime, du haut de mes 23 ans, à monter une boîte, quoi. Enfin, je suis qui ? Je vais parler à des gérants qui ont toute une expérience derrière eux. Non. Et elle me dit, mais c'est pas grave, en fait. Dans ta tête, dis-toi, fais comme si t'avais 30 ans. Et c'est un truc que j'ai appliqué, du coup, avec tout. Et à chaque fois que j'ai un problème, je me dis, c'est pas grave, fais comme si t'avais confiance. Fais comme si tu savais ce que tu faisais. Et en fait, le fait de faire semblant, ça aide pas mal.
Et le bluff, ça aide.
Ouais, de ouf. Après, je sais pas, il y a un autre truc que tu m'entendras toujours, toujours, toujours dire à tout le monde. Et quand j'y repense, c'est peut-être le meilleur conseil que j'ai eu de ma vie, pour le coup, et pas de ma vie entrepreneuriale seulement. C'est mon papa, qui m'a toujours dit, toujours depuis que je suis toute petite, ce que j'ai dit juste tout à l'heure, il y a plus de solutions que de problèmes. Et ça, ça m'a ouvert tellement de portes. Juste, faut pas rester bloqué. Il y aura toujours une solution. Donc, je sais pas.
Les deux, on prend les deux.
Voilà, je te laisserai couper celui qui te plaît le plus.
Non, je passe. C'est bien, franchement, les deux, ils sont sympas. Moi, je les ai jamais entendus.
Y en a un, c'est plus du coup pour la vie entrepreneuriale. Et l'autre, c'est vraiment la vie au quotidien, quoi. Donc voilà, les deux se complètent énormément, je pense.
Merci beaucoup. Merci pour les conseils. Merci d'avoir participé donc à ce podcast.
C'était avec grand plaisir.
Qu'est-ce que je te souhaite pour l'avenir ?
De claquer des culs.
C'est la meilleure expression de tous mes podcasts à venir. Hein. Personne ne peut me sortir ça. Mieux que ça. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel article et dans 15 jours pour un nouveau podcast. Et je vous fais des bisous.